Okapi clôture le mois de la femme avec ses deux programmes interactifs. Okapi service et parole aux auditeurs, ce jeudi 31 mars 2016, de 9h à 11h à l'ISP Gombe.
Radio Okapi en direct de l'ISP Gombe, à l'occasion.
Bienvenue dans Parole aux auditeurs, ces cadres d'échanges citoyens.
Au programme, égalité des sexes, autonomisation de la femme et leadership féminin. Hommes, femmes et vous tous qui militez pour la promotion de la femme,
venez nombreux participer à ce rendez-vous spécial.
Merci beaucoup pour la parole. Donc, nous sommes en train de parler pas seulement de l'ISP, mais pour toutes les universités et institutions supérieures.
Bonjour Radio Okapi. Merci beaucoup de m'avoir passé la parole aujourd'hui. On parle...
Okapi Service et parole aux auditeurs à l'ISP Gombe, ce jeudi 31 mars, avec...
Jody Daniel Kachama et J.R. Lungembo.
Bien. Nous sommes ici à l'ISP Gombe, en direct de l'ISP Gombe, à l'occasion de la clôture du mois de la femme. Alors, sans plus tarder, nous allons aborder notre premier thème du jour. Comment lutter contre les violences faites à la femme? Vous savez, en RDC, plusieurs femmes sont victimes des violences. Elles sont souvent battues, violées, humiliées par des proches dans la société et d'après les experts. Ce phénomène est dû à l'impunité. Les femmes victimes ne dénoncent pas les problèmes qu'elles rencontrent au quotidien. Alors comment, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre toutes les formes des violences faites à la femme? Nous allons en parler avec nos deux invités qui sont là. Madame Marie-Josée Mujenga Bimacha, vous êtes présidente de l'Association des femmes magistrats de la RDC. Encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors nous parlons des violences faites à la femme. Quand on parle des violences faites à la femme, de quoi s'agit-il?
Ben, c'est comme le mot le dit, hein, violences faites à la femme. Ce sont des actes qui sont posés à l'égard de la femme contre sa volonté.
Oui, allez-y.
Ce sont des actes qui sont posés contre la femme, d'une manière ou d'une autre, et qui sont contre sa volonté.
Voilà des actes posés contre la femme et qui sont contre sa volonté. Quels sont ces actes?
Bon, vous savez, les violences sexuelles sont multiples et diversifiées. Hein. Il y a par exemple... Oui. Il y a des violences morales, il y a des violences physiques. Il y a des violences morales, des violences physiques. Par exemple, le fait pour un homme de battre sa femme au motif qu'il l'a épousée. Ce sont des violences faites à la femme. Même si c'est sa femme qu'elle a épousée, elle n'a pas le droit de lever la main sur elle. Ça s'appelle violence physique.
Voilà, ça s'appelle violence physique. Et quels sont les autres types de violences à part les violences physiques?
Bon, évidemment, vous savez, il y a plusieurs violences. Le fait de pousser une femme à pouvoir poser des actes ou à se résigner contre sa volonté, ce sont des violences morales. Une femme qui supporte les maltraitances de son mari, le fait que le mari ne lui accorde pas assez de valeur dans la maison, ce sont des violences morales. Mais dans notre pays, nous avons une loi de 2006 qui a donné une liste des violences faites à la femme. Alors nous avons une panoplie de violences. Nous avons par exemple l'harcèlement sexuel, nous avons le viol, nous avons le mariage forcé, nous avons le fait les mutilations sexuelles.
Voilà.
Bon, il y en a nombreuses. Il y en a nombreuses des violences sexuelles.
D'accord. Donc. Alors, bien, je me retourne du côté de Madame Marie-Antoinette Saillard. Vous êtes conseillère en genre au bureau du représentant personnel du chef de l'État en charge de la lutte contre les violences sexuelles et du recrutement des enfants. Quelles sont les autres formes de violences faites à la femme que l'on déplore souvent?
Bon, il y a également ce qu'on appelle des violences psychologiques, le fait de maltraiter quelqu'un, ou comme nous parlons plutôt des femmes, le fait de maltraiter la femme, de prononcer des paroles qui blessent, le fait de la punir moralement, c'est ça qu'on appelle des violences psychologiques. Mais également des violences économiques, le fait par exemple de priver une femme de pouvoir exercer un métier, Le fait, quand une femme est commerçante, de la contraindre à des actes sexuels pour pouvoir être servie, tout ça, ce sont de variétés de violences sexuelles qu'on rencontre dans notre pays. Mais également, toutes les coutumes, par exemple, les coutumes liées au veuvage, où on demande...
Lorsque le mari décède, on dépossède la femme de tous les biens.
Oui, cette dépossession constitue également une violence parce qu'elle est condamnée dans notre loi. Mais il y a également d'autres formes de violences liées au veuvage. Par exemple, dans d'autres tribus ici en RDC, où la femme doit avoir des rapports sexuels avec des hommes pendant un certain nombre de jours, soi-disant pour se purifier, constitue une forme de violence sexuelle qui est en même temps morale, physique et psychologique.
Voilà. Donc voilà, il y a plusieurs types de violences faites à la femme. Alors, y a-t-il des questions déjà dans la salle? Voilà, des questions. Vous avez des questions à poser à nos deux invités qui sont là?
Je dis oui, il y a des femmes qui auront des questions à poser aux auditeurs. Je vous passe. Elle va se présenter et poser directement sa question.
D'accord.
C'est Madame Thiela Odette. Quelles sont les causes majeures de violences faites à la femme? Les causes majeures de violences faites à la femme.
D'autres questions dans la salle? Oui, allez-y
voilà,
rapidement.
Oui, merci Radio Okapi pour la parole accordée. Je suis Abdoul Moupoua. Je voulais savoir, est-ce que dans le cadre dans un couple, est-ce que le mari peut être poursuivi pour viol à l'égard de sa femme qu'il a épousée? Parce que nous savons bien que l'une des obligations du mariage, c'est la cohabitation. Je voulais avoir votre avis.
D'accord. D'autres questions? On va ajouter d'autres questions avant que nos invités les reprennent. Oui, Tati.
Merci. C'est Madame Touna. Ma question s'adresse à la présidente de Femmes Magistrates. Pourquoi dans la population, nous avons comme l'impression, malgré qu'il y a des lois qui réprimandent les violences faites à la femme, nous avons comme l'impression que l'impunité persiste encore par rapport aux promoteurs de ces violences?
Bien. Madame Mujinga, vous avez la parole. Et ensuite, Madame Marie-Antoinette va aussi répondre.
Oui, merci pour les questions. Madame, les causes majeures sont, c'est comme je dis, les causes majeures sont multiples. D'abord, il y a l'éducation, l'éducation que nous donnons à nos enfants. À partir du bas âge, on commence déjà par minimiser la valeur de la jeune fille par rapport au garçon. Vous voyez, quand dans nos coutumes, surtout à l'époque, quand une femme ne mettait au monde que des filles, en tout cas, c'est comme si c'était une perte pour la société. Alors que, quand il avait des garçons, on disait que c'est une femme qui donnait de la valeur à la société parce qu'il donnait, il mettait au monde des hommes. Non seulement ça, mais même quand on éduque nos enfants, vous verrez qu'on donne plus de valeur aux garçons. On le considère comme s'il était supérieur à sa jeune sœur ou même à sa grande sœur. Ce qui fait que la sœur, elle est là pour faire tout ce qui est ménage, pendant que le jeune homme, lui, il est là en train de jouer ou de faire autre chose. Donc c'est à partir de l'éducation que nous donnons aux enfants qui fait voir que la femme a moins de valeur que l'homme. Et alors cet homme, ce garçon qui grandit de cette manière dans une maison, ne peut pas changer quand il va grandir. Déjà dès son âge, vous verrez même à l'école, il a une façon de se comporter avec la fille, même son collègue, son condisciple, qui la rabaisse parce qu'il croit être un super homme. Non seulement ça, mais il y a aussi le fait que dans nos sociétés, il y a des coutumes. Des coutumes, nous sommes des Bantous, beaucoup de coutumes avilissent la femme. Il y a des cérémonies auxquelles on ne fait jamais participer la femme.
Lesquelles, par exemple?
Pardon?
Vous parlez des cérémonies auxquelles on ne fait jamais participer la femme, lesquelles, par exemple?
Oui, par exemple, vous voyez, quand il y a la dot à l'époque, c'était uniquement les hommes. Il y a des conseils de famille où on ne mettait que les hommes. Les femmes, on les écartait. Alors, à ce moment-là, le garçon qui voit sa maman déjà être écartée du cercle de prise de décision, grandit avec cette manière-là. Quand il sera une grande autorité, il va se dire que c'est comme ça. La femme n'a pas droit à une, au cercle de ceux qui prennent des décisions. Donc, il y a cette mentalité qui fait que, quand nous grandissons, nous, les femmes, nous nous considérons moindres par rapport aux hommes. Et même dans nos mariages, nous croyons que l'homme est toujours supérieur à la femme. Alors que Dieu a dit que la femme est l'aide semblable et non inférieure à la femme et à l'homme plutôt.
Bien, voilà.
Ce qui crée déjà un complexe d'infériorité par rapport à la femme, un complexe de supériorité par rapport à l'homme qui considère la femme comme étant sa chose. Imaginez-vous des hommes qui ont été éduqués de cette manière. Comment voulez-vous qu'ils puissent se comporter quand ils seront des grandes autorités? C'est ça l'image que nous voyons actuellement. Donc c'est la faute des mamans qui au départ... C'est la faute des parents à cause de nos cultures. J'espère que au fur et à mesure ça va changer, mais voilà les grandes causes qui font que la femme soit violentée par rapport... Au fait, ça commence dans la tête là. C'est dans la tête de l'homme. Un homme qui est bien éduqué, un homme à qui on a dit que, écoutez, cette femme, cette jeune fille, c'est ton semblable, je crois qu'il va grandir avec ce respect, avec la jeune fille, et même quand il va se marier, il va respecter. Vous savez, dans cette société, il y a des femmes, des hommes qui défendent la cause des femmes. Il y a des jeunes gens sur la route, quand ils voient une femme, une fille violentée, ils vont la défendre. Par contre, il y en a d'autres qui croient que la femme, c'est un objet de plaisir. Donc, je crois que les causes majeures, madame, c'est surtout l'éducation que nous donnons à nos enfants. C'est le départ, c'est la base.
C'est la base, merci. Il y a d'autres questions, madame Marie-Antoinette Saya, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Je voulais compléter, madame Imancha. Je voulais dire également qu'il y a les inégalités, toutes les inégalités de traitement que subit la fille, la femme, au sein de la société. Regardez, par exemple, quand nous sommes dans une maison, on dit déjà au petit garçon qui s'appelle Junior que c'est lui l'héritier. Mais la fille qui est l'aînée, on ne la considère pas. Donc ce sont tous ces petits traits, toutes ces petites pratiques, tous ces petits comportements que nous manifestons au niveau de la maison qui font que le garçon pense qu'il est l'être supérieur et il se comporte comme tel. Mais il y a également le statut de la femme. Le statut de la femme dans notre pays est très faible. La femme a plus de devoirs que d'avantages, que oui. De droits plutôt. Oui, oui. Merci beaucoup. Alors ça aussi, c'est un élément important. Et d'autre part, dans l'éducation qu'on donne à la fille, on lui dit qu'elle est au service de l'homme. Être au service de quelqu'un, entre guillemets, c'est être considéré comme étant une esclave. Donc, vous devez faire toute sa volonté. C'est ce qui fait également que les femmes, se croyant inférieures, et elles-mêmes se mettent dans une position d'infériorité qui fait qu'elles subissent les injustices au sein de la société. Il y a également, c'est vrai, on peut dire que les parents sont responsables, mais c'est la modélation de la société. La société telle qu'elle émet les règles de vie, les règles de bien vivre ensemble, donne beaucoup plus de priorité à l'homme qu'à la femme. C'est ce qui fait également que nous devons revoir notre façon de penser et notre façon de rééduquer les enfants.
Bien, au Capi Service, en direct de l'ISP Gombe, à l'occasion de la clôture du mois de la femme, il y a une question qui a été posée quelque part. Un homme qui vit avec sa femme à la maison, est-ce qu'on peut parler de viol ou des violences?
Oui, moi je crois que quand nous lisons les dispositions contenues dans le code de la famille, il y a des devoirs et des obligations vis-à-vis de l'époux et vis-à-vis de l'épouse. Donc un homme qui maltraite sa femme, qui la considère comme une chose, qui la violente, peut être poursuivi. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes qui... Il y a beaucoup d'hommes dans notre pays qui s'amusent à taper leur femme en disant que c'est un signe d'amour. Non, ça ne peut pas être un signe d'amour quand on tape sur quelqu'un qu'on aime.
ça ne peut pas être un signe d'amour quand on tape sur quelqu'un qu'on aime. D'abord, l'homme doit du respect à sa femme. C'est une des obligations.
Voilà.
Et je peux ajouter que l'homme qui tape sa femme est poursuivable pour coups et blessures. C'est une infraction. Mais seulement le problème se situe au niveau de la dénonciation.
Il y a beaucoup de femmes qui ne dénoncent pas, qui gardent silence, qui protègent leur mari.
Oui, les femmes ne dénoncent pas. Pourquoi? Vous savez, cette année, le thème, c'est aussi l'autonomisation de la femme. Mm-hmm. Pourquoi est-ce que dans notre pays, les femmes ne dénoncent pas? Parce qu'ils ne sont pas autonomes sur le plan économique. Ils ne sont pas autonomes, elles ne sont pas autonomes sur le plan financier. Cet homme-là, qu'il a épousé, c'est celui-là qui se considère comme son Dieu. Parce que c'est lui qui fait tout pour elle. Alors la femme, avant de dénoncer, essaie un peu de réfléchir en se disant, si je le dénonce, on risque de l'arrêter. Alors, qui va me donner à manger? Qui va me soutenir? Et là, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse dans laquelle on a mis la femme à cause du fait qu'elle n'est pas autonome. Ne vous en faites pas. Les femmes ne dénoncent pas parce qu'il y a l'amour. Non, non. Un homme qui tape sa femme, ils doivent savoir. Ici, je m'adresse aux hommes pour dire qu'une femme a du cœur. Une femme, c'est un être humain. Quand vous, l'homme, vous tapez votre femme, mettez-vous bien en tête que c'est une femme qui se résigne, mais qui peut vivre même avec vous en vous haïssant. Parce que vous savez, vous ne pouvez pas, même un chien quand on le tape, il finit par vous mordre. Alors comment voulez-vous que la femme qui est tapée tout le temps continue à présenter de l'amour? Je crois que c'est une infraction. C'est une infraction et les hommes doivent savoir que s'ils sont dénoncés devant le tribunal, ils vont pas dire c'est une affaire de couple. Non, c'est une infraction qui s'appelle coups et blessures.
Et qu'est-ce que la loi, et quelle est la sanction que la loi réserve pour ce genre d'infraction?
Pardon?
Quelle est la sanction que la loi a prévue?
Oui, mais ça va jusqu'à la peine capitale quand les coups ont entraîné la mort. Mm-hmm. Oui. Et maintenant, j'aimerais dire aussi ceci, c'est que il peut y avoir aussi des viols conjugaux. Un mari peut être poursuivi pour avoir violé sa femme, sa propre épouse. Ça peut exister. Dans quel cas? Dans le cas où, par exemple, je donne un exemple. Une femme à qui le médecin a interdit pour des raisons de santé de ne pas avoir des rapports sexuels. Mais voilà que l'homme essaie de violenter cette femme. Essaie de lui forcer à avoir des rapports sexuels. C'est bien beau, on me dira que c'est le foyer, c'est l'amour, tout ça. Mais le médecin interdit, quand l'homme oblige la femme, si la femme porte plainte, cet homme sera poursuivi pour viol. Parce que il a causé préjudice à cette femme-là qui peut même mourir.
Voilà. Voilà. Merci de nous suivre partout. Vous êtes en RDC. Nous sommes en direct de l'ISP Gombe à l'occasion de la clôture du mois de la femme. Merci à toutes les organisations féminines représentées en ces lieux, dans cette émission spéciale organisée avec le concours de Blisco. Voilà, il y a d'autres questions dans la salle. Allez-y.
Bonjour. Je suis pas défenseur de notre société, mais quand même être radical, comme la dame l'a dit, jusqu'à donner la peine capitale à un homme, je pense que c'est trop dire. Excusez. Mais certes, notre pays n'est pas encore à la hauteur jusqu'à dire qu'il y a une égalité des sexes, mais quand même on peut voir le peu d'efforts. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. On ne peut pas comparer avec les siècles passés, mais je pense qu'aujourd'hui, dans notre pays, certes, il y a d'autres villes et provinces où la femme est toujours considérée au point bas, mais quand même, il y a une évolution, parce que là, vous êtes dans une classe où la majorité en est des femmes. Donc, on peut dire qu'il y a un changement. Il y a le réveil de la femme. Donc, revenir toujours à ce point, je pense que c'est...
Alors, quelle est votre question? Quelle est votre préoccupation?
Ma question est que, madame, je voudrais savoir, est-ce que vous pensez que c'est toujours la faute de la société ou la faute de nos coutumes? Et pourtant, on peut voir que la femme aussi a une partie de responsabilité dans ces violences-là qui sont faites aujourd'hui à la femme. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Bien. Merci. Oui, il y a d'autres questions auxquelles on va répondre tout à l'heure. Nounou, de l'autre côté.
Chantal Moulenda, fille de Notre-Dame du Sacré-Cœur.
Okay.
Ma question est celle-ci. Pourquoi la famille, si une fille tombe enceinte, les parents condamnent les mamans, soit en disant que c'est la maman qui favorise sa fille. Et si c'est un garçon, en gros, c'est une fille. Là, on peut dire aussi que c'est le papa qui encourage son fils. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à ce genre de parents?
D'accord. Merci pour ces questions. Alors, revenons d'abord à d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu. Madame Marie-Antoinette Sayah.
Oui, je voulais également aborder le problème du viol conjugal. Vous savez, les relations dans le couple, ce sont des relations consensuelles. Quand vous aimez, vous vous consacrez à l'autre. Quand vous aimez, vous êtes prêt à vous donner à l'autre. Quand l'autre vous dit que je ne suis pas disponible, je ne suis pas prêt, je me sens mal, vous n'avez pas l'obligation de la forcer à pouvoir avoir des rapports sexuels avec vous. Si vous les faites contre son gré, ça constitue un viol. Dans d'autres pays, le viol conjugal est condamné. Peut-être ici, nous sommes encore en train de discuter autour de ça, mais c'est quelque chose qui est condamnable. Les rapports sexuels sont quelque chose de voulu. Chacun est d'accord de pouvoir participer. Mais quand l'autre n'est pas prêt, il ne faut pas la forcer. Quand vous lui forcez la main, c'est que vous êtes condamné, c'est que vous lui faites du mal. Peut-être elle n'en dira rien, elle n'en parlera pas, mais elle en souffrira. Et c'est de cette souffrance que va naître probablement la haine. Parce que quand une femme aime, elle est prête à tout faire pour son homme.
Mais d'ailleurs, il y a une dame qui n'était pas d'accord.
Oui, c'est pourquoi je suis en train de le... Ouais. C'est à elle que je m'adresse.
Elle dit mon mari, jusqu'à la peine capitale, elle n'accepte pas.
Oui, mais quand il y a mort d'homme, qu'est-ce que vous faites? La loi condamne quelqu'un qui force quelqu'un, ou bien quelqu'un qui bat quelqu'un, qui bat sa femme jusqu'à ce qu'elle meure. Et quand si c'est ta sœur qui mourait, quelle serait ton attitude vis-à-vis de ton beau-frère? Tu irais l'embrasser? Non, tu serais contre. Tu serais la première à demander qu'elle soit condamnée, qu'elle soit en prison. Et c'est là où il y a la peine capitale dont a parlé madame Bimanche. Mais je voulais également répondre à la dame qui a posé la question sur l'impunité. Elle a dit que l'impunité existe. C'est vrai en apparence. Bon, en réalité aussi, l'impunité existe. Mais pourquoi cette impunité existe? Le premier problème, c'est parce que nous n'avons pas suffisamment de connaissances pour prouver tous les problèmes liés à la violence sexuelle. Par exemple, quand il y a eu viol, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont se laver rapidement et en se lavant, cette personne efface toutes les preuves. Ce qui fait que quand vous allez au tribunal, le tribunal n'arrive pas à déceler les preuves qui condamnent la personne et la personne est libérée. Donc la première des choses, c'est qu'il faut que nous ayons suffisamment d'informations sur les violences ou bien sur les viols qui sont perpétrés contre les filles pour savoir comment préserver les preuves et faire condamner l'autre. Parce que s'il n'y a pas de preuves, il est difficile de condamner l'autre. Deuxièmement, il n'y a pas de dénonciation. Si vous ne dénoncez pas, si vous n'en parlez pas, vous restez dans votre cercle. Il est difficile que Madame Mimancha, qui est magistrat, qui est procureur, puisse venir vers vous dire vous avez été violée. Non, il faut aller vers la police. Il faut aller vers les services de santé qui vont vous établir un certificat médical signifiant que vous avez été maltraité, vous avez été violenté. À ce moment-là, la justice peut se saisir du cas. Mais s'il n'y a pas ces preuves-là, il est difficile à la justice de pouvoir se servir de ces cas.
Bien, il y a une autre question, Madame Mujinga. Lorsque la fille tombe grosse, On s'attaque à la mère, on dit que la maman est complice, elle était responsable. Alors elle se pose la question, lorsque les garçons engrossent une fille, est-ce que on dira que le papa est aussi était au courant?
Oui, avant de répondre à cette question, j'aimerais compléter à la question de l'impunité.
Oui.
Parce que quand on parle de l'impunité, je me sens directement visée en tant que magistrat. Vous savez, c'est quand même dommage parce que on n'a jamais... La population congolaise, quelque part, est ingrate. Laissez-moi vous dire la vérité. Les magistrats font un grand travail. Mais seulement, on ne peut pas percevoir ça. Pourquoi ? À cause de l'étendue
du territoire national.
Du territoire congolais. Allez à Makala, vous verrez. Quand vous allez à Makala, vous verrez combien de cas de viol, de violences sont là. Il y en a qui sont condamnés même à mort. Allez un peu à Makala pour vous rendre compte du travail que les magistrats sont en train de faire. Mais seulement, quand nous parlons de l'impunité, nous devons être responsables. Responsables nous-mêmes parce que évitons de dire de n'importe quoi, parce que cette justice, c'est notre justice, elle reflète ce que la population est.
Donc vous voulez dire qu'il n'y a pas, on ne peut pas parler de l'impunité aujourd'hui.
Ça veut dire que quand il y a impunité, c'est qu'il y a un problème dans la population. C'est que la population est ignorante de ses droits. C'est que la population ne sait pas comment se comporter quand il y a un problème de violence. Les magistrats font du travail, mais seulement, il y a un problème de preuve, s'il vous plaît. Vous savez, quand vous regardez le signe là de la justice, c'est une balance. La balance veut dire quoi? Il y a du côté de l'auteur et du côté de la victime. C'est-à-dire, les juges doivent dire le droit. Malheureusement, dans notre pays, on voit seulement la victime. Mais l'auteur a aussi ses droits. Parce que la loi dit. Laissez-moi vous dire ceci. Je vois que ce sont plus les garçons qui applaudissent. Pourquoi? Je dis ceci. S'il vous plaît, suivez-moi, c'est très important. L'auteur est protégé aussi par la loi, parce que la loi dit que chacun de nous jouit de la présomption d'innocence. Et la loi même dit, il y a un principe sacré de droit qui dit au juge, en cas de doute, vous devez acquitter. C'est pourquoi la population, ici j'insiste, quand vous venez, vous voulez dénoncer les viols. Nous vous encourageons de dénoncer les violences faites à la femme, mais s'il vous plaît, venez avec des preuves.
Lesquelles, par exemple?
Pardon?
Lesquelles? Quel type de preuves?
Oui, mais quand vous venez, vous dites, une fille qui se présente avec un garçon en disant, c'est lui qui m'a violé. Ben, vous savez que c'est rare de rencontrer un auteur de l'infraction qui dit, oui, c'est moi. Il nie tout, tout, tout. Maintenant, c'est au magistrat de chercher la preuve. Et cette preuve-là, la victime doit collaborer à établir la preuve, notamment d'accord, en disant comment est-ce que les faits se sont produits. Mmh. Et tout ça, ça fait que le manque de preuves, madame, fait souvent qu'on relâche l'auteur. Parce que la loi aussi est juste envers même celui qui a fait le... Mais seulement le problème qui est là sur lequel nous disons qu'il y a des sanctions. L'étendue de la République étant vaste, il y a beaucoup de cas dans toutes les prisons, il y a des cas de violences sexuelles qui ont été réprimées par la loi. Mais seulement, il faut que les femmes dénoncent. Mais il y a des fois où la femme a peur de dénoncer parce qu'elle a peur de représailles.
Alors,
des fois, elle
Madame
dénonce,
Mujiga,
mais quand on l'invite, oui, elle ne vient pas.
Elle ne vient pas. Alors, on peut dire que pour lutter efficacement contre les violences faites à la femme, il faut d'abord dénoncer.
Oui, il faut dénoncer. Si on ne dénonce pas, personne ne saura. Le magistrat ne peut pas aller rechercher. Vous savez, le cas des violences,
Madame,
ce sont
Antoinette
des cas
a parlé
qui
aussi
se font en coulisses. Ce sont des cas qui se font en coulisses.
En coulisses, oui.
Vous ne verrez jamais une femme être violée sur la rue. Ça veut dire que ce sont des cas qui se font en cachette et la victime doit dénoncer ou bien l'entourage. Ici aussi, j'aimerais dire que la population congolaise ne protège pas les victimes. On peut voir une femme en train d'être malmenée sur la rue. Tout le monde passe. Maintenant, pour répondre à la question du garçon, de la fille qui a été engrossée, on dit que c'est la faute de sa maman. Le garçon à qui la faute.
Dire aussi que
moi, c'est le papa, moi je dis c'est la faute aux parents. La faute est aux parents. La faute est à la société, à la communauté. J'ai parlé, dans ma première réponse, j'ai parlé de l'éducation que nous donnons à nos enfants. Quelle est l'éducation que nous donnons aux enfants? Quel est le modèle dans notre société actuellement? Quel est le modèle qu'un jeune homme peut suivre, une jeune fille peut suivre actuellement? C'est-à-dire, quand il y a des cas de viol, c'est une fuite en avant. C'est ça aussi la violence faite à la femme. Parce que dès le départ, quand une femme dans une communauté, dans une famille, quand un enfant réussit, c'est toujours l'enfant de son père. Il est intelligent comme son père. Mais quand il échoue, c'est la maman. Toutes les gaffes sont sur le dos de la maman et toutes les réussites, c'est pour le papa. Ça aussi, c'est une injustice, c'est une violence contre laquelle nous devons lutter.
Bien, merci. Comment lutter contre les violences faites à la femme? Au Capé Service en direct de l'ISP Gombe et à Kinshasa. Il y a d'autres questions dans la salle. Nous avons en ces lieux Madame Rose Mutombo, qui représente le cadre permanent des concertations de la femme congolaise. Voilà, Madame Rose, bonjour.
Bonjour.
Alors dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter efficacement contre les violences faites à la femme aujourd'hui?
Il faut une forte sensibilisation et une forte vulgarisation de la loi. Il faut que la population et la communauté prennent conscience de ces fléaux qui est très nuisible à la population. Il faut que les uns et les autres puissent prendre effectivement leurs responsabilités. Aujourd'hui, on est dans un milieu estudiantin. Nous savons tous qu'on parle dans cette ville ou dans les milieux universitaires de points
sexuellement transmissibles.
Oui. Ça m'étonne que les étudiants et étudiantes ne soulèvent pas ça. C'est comme s'ils approuvaient ces méthodes. Et je crois que elles doivent commencer par dénoncer aussi dans leur milieu. Je doute fort qu'ils parlent d'autre chose que de ce qui les concerne. C'est pourquoi nous disons, il faut que les gens dénoncent, il faut que les gens connaissent leurs droits pour que nous puissions ensemble lutter contre ces fléaux relatifs aux violences sexuelles.
Bien, merci. D'autres questions dans la salle? Y a-t-il d'autres questions par rapport à ce thème? Oui, vous avez la parole.
Oui, j'ai la parole.
On vous appelle comment, monsieur?
Monsieur Safir.
D'accord.
Safir Bokolongo. Je voulais quand même assister à ce débat. La violence faite à la femme. Ma première question, elle est celle-ci. J'ai vraiment entendu toutes les questions et réponses des mamans qui nous expliquaient par rapport à la violence faite à la femme. Je voulais savoir ceci.
Oui.
Étant bantou et étant africain, vous verrez que dans une famille quelconque, il y a l'homme qui est chômeur et la femme travaille. Et nous avons aussi vu ces réalités. La femme qui est à la maison avec les enfants et l'homme qui est à la maison et la femme qui sort pour travailler.
Oui.
Et vous verrez que l'homme est matraqué. L'homme est parfois géré par la femme.
Oui.
Et dès que la femme arrive le soir, il dit à l'homme... Fais ça, nettoie les enfants, va là-bas, faire le marché, tout ça. Et nous avons aussi vu ça.
Oui.
Alors moi, j'ai voulu maintenant savoir sur ça. Ce n'est pas une violence, la femme.
Vous voulez parler de la violence faite
non,
à l'homme?
J'ai voulu aussi épingler cette histoire-là.
Oui.
Il y a aussi les hommes, indirectement, ils sont aussi gérés par des femmes d'une manière violemment. Parce qu'on est, nous traversons aussi des réalités. Qui ne sont pas des nôtres, comprenez que il y a des difficultés. Mais non, ce système-là, on dira quoi? C'est pas la femme qui matraque l'homme comme tel. Tout, ça s'effectue par la femme. Et l'homme est dirigé
d'accord,
aussi par la femme.
D'accord,
Merci pour ça.
Merci pour, on a compris votre préoccupation. Nounou, de l'autre côté.
Merci, bonjour. Moi, c'est Judith Kandou. Je suis en L1 Jet. Ma question
c'est quoi Jet?
gestion des entreprises de tourisme et hôtellerie.
D'accord.
Ma question est adressée au représentant de Madame Janine Mabunda. En fait, j'aimerais savoir quels sont le mécanisme technique, moyen et méthode que vous voulez mettre en œuvre pour relever tous ces défis, questions, problèmes relevés dans cette salle.
Bien, commençons par... on commence directement par vous, Madame Marie-Antoine Saya.
Merci. Je voulais d'abord répondre à Monsieur Saphir, qui parlait de l'homme qui est chômeur et de la femme qui travaille. Vous savez, les problèmes de couple doivent se gérer en couple si vous avez une très bonne entente et une très bonne relation. Il y a certains problèmes qui sont des exceptions à la règle. Par exemple, quand un homme, pendant qu'il travaillait plus tôt, il a maltraité sa femme, n'attendez pas, quand vous serez au chômage, qu'elle ne vous rende pas l'appareil. Il y a d'autres qui s'en passent, mais vous devez savoir que la plupart des violences proviennent des hommes. Il y a aussi des exceptions. Il y a des femmes qui sont violentes, ça également on le sait. Mais comme l'a dit Madame Rose, ça part de l'éducation, mais ça, notre devoir est de sensibiliser l'homme, de sensibiliser la femme, de rééduquer l'homme, de rééduquer la femme, pour que les deux puissent jouer leur rôle d'égalité au sein du couple. L'homme et la femme doivent savoir qu'ils ont des droits égaux et ils doivent les partager. En fait, ils doivent échanger au sein du couple pour éviter tous ces phénomènes que vous êtes en train de relever. Quand un couple s'entend bien, ils savent partager dès les premiers jours où ils se sont fiancés, ils se sont dit, voici ce que nous allons faire ensemble, voici ce que comment nous allons décider ensemble. Je pense qu'il y aurait moins de problèmes dans ce couple-là.
D'accord.
Mais quand l'homme se comporte en dictateur dans ce couple, attendez-vous à tout ce qui peut advenir.
Revenons à notre thème. Nous étions en train de parler de la lutte contre les violences faites à la femme. Une question a été posée tout à l'heure. Lorsque le mari est au chômage, la femme travaille. On a l'impression que la femme maltraite son mari. Et Madame Antoinette Saya a répondu. Alors, il y a une deuxième question par rapport aux méthodes à mettre en œuvre pour lutter efficacement contre les violences faites à la femme.
Oui, je pense que la personne qui m'a posé la question, elle a demandé comment au niveau du bureau de madame la représentante, nous faisons pour que...
Allez-y.
Nous faisons pour pouvoir lutter contre ces phénomènes. En fait, au bureau, nous avons 6 axes de travail. Le premier axe consiste à dresser l'état des lieux. Nous essayons un peu de voir quelle est la situation des violences sexuelles. Nous essayons d'enquêter, de récolter des témoignages pour pouvoir agir efficacement. La deuxième méthode, c'est que nous luttons également contre l'impunité, c'est-à-dire nous appuyons les organismes appropriés à poursuivre et à punir les auteurs de violences sexuelles et même du recrutement des enfants. Je crois dernièrement, vous avez suivi qu'il y a des officiers qui ont été condamnés. C'était grâce à l'action du bureau. Ces officiers qui étaient reconnus coupables, mais compte tenu de leur grade, on n'arrivait pas à les condamner. Alors l'action de plaidoyer que le bureau a menée a fait que toutes ces personnes ont été condamnées. Nous éduquons également en faisant de la sensibilisation auprès de populations. Pour cela, nous utilisons un certain nombre de nos partenaires qui travaillent avec nous sur le terrain. Et nous aidons également les victimes à pouvoir se réintégrer, c'est-à-dire que nous facilitons la réparation économique. Cette réparation ne s'adresse pas seulement aux victimes de violences, mais également à certains jeunes qui ont été recrutés dans l'armée et qui ont été démobilisés, à qui nous avons demandé à l'INPP de les former du point de vue économique pour pouvoir leur donner du travail, de l'emploi, afin de se réintégrer au niveau de la société. Et également, nous faisons des campagnes. D'ici le mois de mai, nous allons commencer une grande campagne qui s'intitule « Briser le silence ». Et pendant, nous en avons parlé ici, les gens ne dénoncent pas. Et là, nous allons amener les gens à comprendre ces phénomènes de violence sexuelle et à dénoncer. Il y aura probablement, dans le travail que nous allons faire avec les ONG, des points de rencontre,
de sites où les gens peuvent se rendre pour pouvoir dénoncer les violations dont elles ont été victimes. Et enfin, nous essayons également, pour le moment, de faire un grand devoir. Dans les sociétés, ou bien surtout dans les provinces qui ont été les plus meurtries, on nous a demandé de pouvoir honorer toutes ces femmes victimes qui ont été massacrées pendant ces 10 années de conflit. Alors nous avons un devoir de mémoire et nous comptons élever un mémorial à l'intention de toutes ces personnes victimes de violences sexuelles. Et nous vous convions au moment donné de pouvoir participer avec nous à cette cérémonie et même à pouvoir célébrer des messes, parce qu'il y a des familles qui ont demandé qu'on puisse célébrer les deuils. Ils ont dit nos membres de famille ont été tués, on ne sait pas où ils ont été enterrés. Et vous savez que dans nos coutumes, la paix dans une famille ne vient que quand la personne qui est décédée a été correctement enterrée. Alors il y a ces deux cérémonies-là que nous allons organiser d'ici la fin de l'année et nous attelons à faire ce travail. Voilà un peu le grand axe de travail que nous avons mis sur pied pour pouvoir travailler à lutter contre les violences sexuelles.
Voilà. Alors, Madame Marie-Josée Mujinga, qu'est-ce qu'il faut faire efficacement pour lutter contre les violences faites à la femme?
Bon, je crois qu'il a donné des éléments essentiels. Hein. Ce que je peux ajouter, c'est qu'il faut aussi que la population, connaisse ses droits. Non seulement les femmes, les hommes, les garçons, les jeunes filles, les papas, et chacun de nous doit rentrer à l'école pour connaître ne fût-ce que l'essentiel, les dispositions essentielles concernant la loi qui sanctionne les violences sexuelles. Ici, j'aimerais souligner le fait que dans la mentalité de la population, quand on parle de violences sexuelles, nous voyons seulement les viols. Il y a au moins 15 sortes de violences sexuelles qui ont été libellées par la loi congolaise. Nous devons aussi noter ici que vous savez, contrairement à ce qui apparaît, à Kinshasa, il y a plus de violences, plus de viols que même dans les coins où il y a eu la guerre, notamment les violences domestiques. Les violences domestiques sont très nombreuses dans nos maisons. Les violences sexuelles sont très nombreuses dans nos maisons à cause de la promiscuité, à cause de la pauvreté. Donc pour lutter, il faut aussi que l'État congolais puisse mettre à la disposition de la population des moyens, parce que la pauvreté est une des causes de violences sexuelles, la pauvreté. Il y a des filles qui se prostituent, des filles qui se font avoir tout simplement parce qu'elles cherchent comment survivre. Il y a aussi les violences conjugales. Ces violences conjugales dans notre pays ne sont pas libellées par la loi. Mais ailleurs, les violences conjugales sont sanctionnées par la loi. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans leur ménage violentées. Un homme marié qui se comporte comme s'il était célibataire, qui se comporte comme s'il était un gang, comme si sa femme était son esclave. Et là, ce sont des violences qui doivent être dénoncées. Malheureusement, c'est comme on a dit, la femme est dans une position de faiblesse à cause du manque de l'autonomisation économique et financière. Et ce monsieur se comporte comme un petit roi. Et je crois que les femmes, il est temps quand même que les femmes aussi sachent se faire respecter.
Voilà, et les
nous
femmes.
Devons savoir nous faire respecter pour que les hommes aussi sachent nous respecter.
Respecter. Alors, vous voulez ajouter quelque chose rapidement, Madame Antoinette?
Oui, bon, on a parlé plus de violences conjugales, mais également les violences entre. Je voudrais dénoncer également les violences qui existent entre copains, copines. Il y a beaucoup de copains qui tabassent leurs copines pour je ne sais quelle raison, des milliers de raisons, vous seuls vous le savez, mais nous dénonçons également ce genre de violences. Alors, je voulais ajouter également que le bureau a mis sur pied un numéro vert. Un numéro où quand vous êtes violenté, quel que soit le type de violence que vous avez subi, il y a un numéro. Et je vais laisser le numéro à la radio Okapi qui va vous le donner. Hein, ce numéro-là pour que les personnes qui se sentent menacées, violentées, puissent appeler ce numéro et il y a une aide qui vous sera donnée.
Bien, merci beaucoup, Madame Marie-Antoinette Saya. Nous avons également, alors on va rapidement donner les numéros qui est là, c'est le 089 7222. Voilà, on peut appeler à ces numéros-là pour dénoncer les cas des violences. Pardon, il y a un autre numéro, appelez le 47-33-33. 47-33-33, vous pouvez dénoncer toutes ces formes de violences. Nous avons également sur ce plateau Madame Monique Guesquès-Roger. Elle est directrice générale de Blisco, Blisco qui sponsorise cette émission à l'occasion de la clôture du mois de la femme. Vous savez, plusieurs jeunes filles et femmes sont victimes de violences sexuelles et pour certains observateurs, ces femmes portent des tenues indécentes qui exposent certaines parties de leur corps. Alors comment une femme doit-elle s'habiller convenablement et quel peut être le rôle de Blisco pour aider la femme congolaise à bien s'habiller?
Je vous remercie pour votre question. Cette question m'a été adressée il y a 8 ans. Et j'ai répondu à cette question il y a déjà plusieurs années. Mais je suis étonnée qu'elle revienne encore. Ça veut dire peut-être qu'on n'a pas évolué, qu'on n'a pas progressé. Je pense que quand on attribue le viol au fait que la femme ne s'est pas habillée convenablement, je suis choquée de la question parce que dirait-on des enfants qu'on viole? Que dirait-on des mamans âgées qui ont été violées? Que dirait-on? Dernièrement, on a vu à la télévision un bébé de 6 mois qui a été violé. Que dit-on alors des sœurs religieuses qui portent des vêtements qui ont été violés? Et que dit-on alors des femmes en Inde, dernièrement au Pakistan, qui ont été violées? On sait que ces femmes-là portent des saris, des vêtements qui les couvrent, même qui sont voilées à la tête, de la tête aux pieds. Donc
les raisons sont ailleurs.
Donc, le problème est ailleurs que dans le code vestimentaire. Et d'ailleurs, je peux dire qu'une femme peut être habillée d'une certaine manière, peut déplaire à un homme, mais plaire à un autre. Donc tous les goûts sont dans la nature. D'accord? Alors, aussi, je veux dire que les codes vestimentaires, nous évoluons, changent, parce qu'il y a la mode qui vient. Par contre, et c'est ce que je voudrais souligner, d'ailleurs, je vais vous rappeler qu'à l'époque, nos mamans portaient le zikida avec le pagne. Vous savez, le zikida galbait la taille de la femme et augmentait le volume du postérieur. Alors, quand les femmes qui portaient le zikida passaient, elles étaient galbées de sorte que la taille se voyait et le postérieur devenait volumineux.
Mais il n'y avait pas autant de viols.
Il n'y avait pas autant de viols à cette époque-là. Ouais. Alors, que dit-on alors de l'époque où on portait le pagne? Vous vous souvenez la mode du zibola, c'est-à-dire qu'on voyait la fente de la jambe quand la femme marchait, la fente de la jambe se voyait jusqu'au genou. Que dit-on de ça? Et il n'y avait pas autant de viols à ce moment-là. Ici, je veux dire ceci, c'est que lorsqu'on attribue le viol au code vestimentaire de la femme, je pense qu'il y a un problème parce qu'on veut accuser la femme d'être la cause du viol. Et ici, je trouve que c'est grave parce que on donne l'excuse. Le viol, c'est quoi? C'est la destruction de la vie d'une personne. Donc, on veut dire par là que tu peux être détruite, on peut détruire la vie d'une femme, et ce n'est pas que la vie d'une femme, c'est la vie, d'accord, et l'impact que cela a sur ses enfants, sur sa famille, sur toute la lignée de cette femme. On s'octroie le droit de détruire la vie d'une femme, sa lignée, sa famille, et l'impact sur la société, parce que ce jour-là, elle a porté un vêtement qui ne vous plaît pas, elle a porté un vêtement qui était peut-être suggestif, d'accord. Et je trouve que c'est grave. Et si des hommes, aujourd'hui il y a des hommes qui se permettent de le dire, voilà pourquoi votre question m'est adressée, pour moi, je suis désolée, ces hommes-là devraient peut-être voir un médecin ou un psychiatre parce que parce que cela dénote, cela dénote un trouble comportemental profond et un trouble psychologique, psychiatrique profond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne ne voit plus son problème, mais voit, c'est-à-dire transfère le problème chez la victime.
Oui.
Et ça, c'est un, quand on transfère son propre problème chez la victime, c'est une preuve, une des preuves d'une pathologie psychiatrique profonde. Je n'ai pas fini.
Oui, allez-y, Madame Monique. Allez-y.
Oui, je n'ai pas fini.
Allez-y, on vous écoute.
Donc, c'est cela que je voulais dire.
Oui.
Je voulais aussi dire que c'était pour ramener le problème à l'individu. Et les personnes qui font ça et qui trouvent les excuses de le faire, pour moi, alors quand vous le dites qu'il y a beaucoup, beaucoup de viols, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'hommes qui devraient être soignés parce que ici on porte non seulement, je vais terminer en disant ceci, on porte non seulement atteinte à l'individu mais à toute la société. Pour moi, c'est un crime sociétal, c'est un crime à la société que de porter atteinte, de violer, de détruire la vie d'un individu.
Alors, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, l'habillement de la jeune fille n'a rien à voir avec les viols, donc les raisons sont plutôt ailleurs?
Non, la jeune fille, le fait d'être violée, c'est-à-dire excuser le fait d'être violée parce qu'elle a porté un vêtement. Excusez-moi, mais et l'enfant qui a été violé, dites-moi, la faute est où? Et la grand-mère qui a été violée, la faute est où?
Alors, d'après vous,
le problème
est ailleurs.
Le problème du viol, ça veut dire le mal, ça veut dire la méchanceté, ça veut dire la destruction se trouve dans le cœur et non pas dans le vêtement.
Alors d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant?
Bon, pardon, pour Vlisco? Ici, je veux dire ceci, c'est que Vlisco met à la disposition du consommateur africain un vêtement, c'est-à-dire la possibilité de s'habiller de manière à mettre en valeur notre africanité, notre culture africaine, notre héritage africain, l'héritage de nos mamans, c'est-à-dire à travers du port du pagne, nous pouvons le mettre en avant. Vlisco n'est pas là pour donner la solution au viol et pourtant pour le dénoncer. Mais le vêtement en pagne vous met en valeur par rapport à votre identité africaine, par rapport à l'héritage et par rapport... Et justement par rapport à nos valeurs, les valeurs africaines, les valeurs de respect, les valeurs qui nous mettent en avant. Et d'ailleurs, vous connaissez, Vlisco raconte l'histoire. C'est un moyen de communication. Vlisco raconte des histoires. On a le 6 bougies, on a mon mari est capable, l'œil de ma rivale. Et c'est ça, Vlisco. Vlisco raconte l'histoire du passé, raconte l'histoire de notre héritage et met en avant l'africanité et notre identité africaine.
Bien, merci Madame Monique Guiesquès-Roger, directrice générale de Vlisco. Nous disons également merci à Madame Marie-Josée Mujinga Bimancha, présidente de l'Association des femmes magistrates de la RDC. Merci également à Madame Marie-Antoinette Saya, conseillère en genre au bureau du représentant personnel du chef de l'État en charge de la lutte contre les violences sexuelles et du recrutement des enfants. Est-ce qu'on peut applaudir pour nos invités pendant que nous mettons fin à cette première partie de l'émission Capice Service. Nous allons souffler un tout petit peu avec les Toumao qui vont nous présenter quelque chose de très bien que vous allez aimer. À tout à l'heure.
Radio Capi clôture le mois de la femme avec ses deux programmes interactifs. Au Capi Service et Paroles aux auditeurs, ce jeudi 31 mars 2016, de 9h à 11h à l'ISP Gombe.
Radio Capi en direct de l'ISP Gombe à l'occasion.
Bienvenue dans Paroles aux auditeurs, ces cadres d'échanges citoyens.
Au programme, égalité des sexes, autonomisation de la femme et leadership féminin. Hommes, femmes et vous tous qui militez pour la promotion de la femme,
venez nombreux participer à ce rendez-vous spécial.
Merci beaucoup pour la parole. Donc, nous sommes en train de parler pas seulement de l'IST, mais pour toutes les universités et institutions supérieures.
Bonjour, Radio Capi.
Merci beaucoup de m'avoir passé la parole aujourd'hui. On parle...
Okapi Service et parole aux auditeurs, Ali Espé Gombe, ce jeudi 31 mars, avec...
Jody Daniel Kachama et J.R. Lungembo.
Ok. Voilà. Ok, c'est bon. C'est bon? Est-ce que... oui, c'est bon. Mais, en fait, c'est une inquiétude. Je suis en train de m'inquiéter et cela me pousse à me révolter. Mais comment? Vous savez, depuis le chômage, je suis au chômage. Et depuis mon chômage, c'est ma femme qui est maintenant responsable de la maison. Ah oui, parce qu'elle sort chaque jour. Imaginez-vous, elle sort tous les jours le matin pour ne rentrer que le soir à des heures tardives. Et là, moi, ça commence à m'inquiéter. Et je me dis, je pouvais même arriver à arrêter toutes ces activités. Parce que moi, quand je travaillais même, j'amenais plusieurs histoires à la maison. Sac de maïs, wow. Sac de manioc, wow. Sac de dé, wow. Mais elle, avec quelques bicolos seulement, cela la pousse à sortir le matin jusqu'au soir. J'ai tenté d'interdire, je n'arrive pas. Vous savez quoi? Si j'interdisais aujourd'hui les activités, je ne sais même pas dire qui va payer les minéraux pour les enfants. Qui va encore continuer à me nourrir à la maison? J'essaye, je tente d'aller jouer au jeu de 6, on interdit. J'ai des dames, on interdit. La carte encore plus grave, on cherche à m'arrêter. Mais trop c'est trop, je suis trop inquiet. Et aujourd'hui, je vais prendre des décisions, chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a au juste. Mais non, non, trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Ah voilà. Lorsqu'on parle du loup, on voit sa chemise. Voilà. Ah non.
Bisous mon amour.
Arrête! Bisous, bisous mon amour. Donc c'est à 7h que tu vas rentrer à la maison. C'est à 7h que tu vas rentrer à la maison.
Non mon chéri.
Et non, où étais-tu tout ce temps?
Je suis allé voir les gens qui veulent nous aider.
Ah voilà, voilà. Moi j'étais envoyé d'aller chercher les gens pour venir m'aider ici à la maison.
Non, non, mon bébé, tu sais quoi? J'avais rendez-vous avec secrétaire générale permanente et exécutif pour l'émancipation de la femme.
Ah, voilà. Ah, voilà, voilà au moins. Elle avait rendez-vous avec le secrétaire permanent et exécutif pour l'émancipation de la femme. Donc, c'est lui qui est permanent et... Donc c'est lui qui est permanent à l'hôtel pour t'exécuter, n'est-ce pas?
Oh non, 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 c'est pas ça mon
chéri. Alors parle juste, c'est quoi, il est qui? Ils sont qui ces messieurs?
Ils sont là pour le développement de la femme, c'est
ah,
tout.
Ah oui, si je comprends bien, ils sont là, présents à l'hôtel pour le développement de ton ventre, n'est-ce pas?
Moi j'ai pas dit ça mon amour.
Tu n'as pas dit ça? Oh. Mais sois bref, net et clair. Ils cherchent quoi ces gens-là? Ils sont en train de chercher quoi?
Ils sont en train de chercher les femmes très courageuses, mon amour.
Ah, voilà. Voilà. Comment ils ont su que toi, tu étais si courageuse à l'hôtel? Hein?
Non, non, non. Ah, mon amour, c'est quoi ça? Tu sais quoi? Ils sont à la recherche des femmes très courageuses, dont les mamans qui se réveillent trop tôt matin, comme les mamans Bipopola, les mamans qui font de pain, les mamans maraîchères, les mamans qui font des tangawis.
Tu vois par où tu as acheté? Tangaouzi. Tangaouzi!
Mon amour.
Et tout ça, c'est pour quelle raison?
Non, s'il vous plaît, écoute-moi très bien.
Hein?
Au lait que j'ai chaque fois en Dolo Libongo pour acheter 2, 3, 4, 5 bicolos de maïs et veut nous fournir les marchandises en grande quantité.
Fournir les marchandises en grande quantité, explique un peu, c'est-à-dire quoi?
C'est-à-dire 100. 200, 300, 400, même 500 sacs de maïs.
Arrête, arrête, Zizo. Donc, 100, 200, 300, 400, 500 sacs de maïs, ici chez moi à la maison?
Bien sûr que oui, mon amour.
Non, sois clair, explique bien. Chez moi à la maison ici?
Bien sûr que oui.
Ici chez moi?
Oui, chérie, tu sais quoi?
Arrête, chez moi à la maison ici?
Mais ici chez nous!
Chérie?
Oui.
Et là, je t'accepte de sortir et rentrer ta résidence. Et ça commence quand?
Tu sais quoi, chérie?
Hein?
Mais on va signer un contrat.
Vous allez signer un contrat. Ce n'est pas un problème. J'accepte, tu amènes le contrat et je signe directement.
Non, pas toi, c'est bien moi. Moi, je vais signer le contrat, pas toi.
Donc, si je comprends bien, tu prends toutes mes responsabilités. Toi, tu sors, moi, je reste et c'est toi qui signes maintenant le contrat à ma place.
Non, je n'ai pas dit ça. Tu sais quoi? Satan est révolu, n'est-ce pas?
Révolu.
La femme est déjà émancipée. Donc, elle est capable de faire tout ce que l'homme est capable de faire.
Donc, elle peut devenir aujourd'hui journaliste.
Oh, bien sûr que oui.
Ministre.
Présidente.
Présidente.
Ah oui.
Même pape.
Oh, pape aussi.
Non. Chérie.
Oui, mon amour.
Donc, parce que c'est déjà l'émancipation.
Ah oui.
Je t'encourage. Tu es une compagnonne d'élite. Chérie, en tout cas, je te ordonne, je te permets de signer le contrat parce que tout va démonter. Mon intérêt aussi.
Ah, ok.
Et tu sais, chérie.
Oh oui.
Je ne pouvais pas t'interdire parce que j'ai commencé à me faire des idées. Mm-hmm. Tu sais, ces derniers temps, c'est toujours où on a violé. Où on a fait ça. Et quand tu vas, tu rentres tardivement. Tourne d'abord.
Oh, chérie.
Tourne d'abord. Vous savez, c'est parce qu'elle est déjà émancipée que ça ne me fait même plus, ça ne m'effraie même pas encore. Et je craignais, elle sortait chaque jour avec un seul pagne, sans couverture.
Ah, mon amour.
Mais parce qu'elle est émancipée, je fais confiance, donc chérie, je t'accepte.
Merci beaucoup.
Et tu sais quoi? Cela mérite même une fête.
C'est vrai?
Une fête de la femme.
Ok.
Fête.
Fête.
Chérie, on va chanter pour
on
ça.
On va chanter.
L'émancipation de la femme est alinango bien. C'est le développement, l'épanouissement de la femme. Elle veut nous montrer, nous dire de quoi elle est capable. Bonne chance. Émancipation de la femme est alinango bien. C'est le développement, l'épanouissement de la femme. Elle veut nous montrer, nous dire de quoi elle est capable. Bonne chance. Progrès na yo esengi soutenu. Ya mobali pembeni na yo. Maloba ya Biblia femme soyez soumise. Le 8 mars c'est journée de la femme. Elle veut devenir présidente. Elle veut devenir le ministre. Elle veut devenir papa Benoît XVI. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Ce n'est pas ma belle. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Ce n'est pas ma belle. Botika kosa lanzo zinge.
Yes.
Bozonge la kola ta maputa.
Yes.
Botike la biso ba pantalo.
Yes.
Botipa mitolu na bino. Botika mpeko bipe biso. Le 8 mars c'est journée de la femme. Elle veut devenir la présidente. Elle veut devenir le ministre.
Ce n'est pas mauvais.
Radio Okapi clôture le mois de la femme avec ses deux programmes interactifs. Okapi Service et Paroles aux auditeurs, ce jeudi 31 mars 2016, de 9h à 11h à l'ISP Gombe.
Radio Okapi en direct de l'ISP Gombe à l'occasion.
Bienvenue dans Paroles aux auditeurs, ces cadres d'échanges citoyens. Au programme, égalité des sexes, autonomisation de la femme et leadership féminin. Hommes, femmes et vous tous qui militez pour la promotion de la femme,
venez nombreux participer à ce rendez-vous spécial.
Merci beaucoup pour la parole. Donc, nous sommes en train de parler pas seulement de l'IST, mais pour toutes les universités et institutions supérieures.
Bonjour Radio Okapi. Merci beaucoup de m'avoir passé la parole aujourd'hui. On parle
Okapi Service et Paroles aux auditeurs à l'ISP Gombe ce jeudi 31 mars avec
Jody Daniel Kachama et J.R. Lungembo.
Radio Okapi en direct de l'ISP Gombe à l'occasion de la clôture du mois de la femme. Merci d'être là, merci les Toumao. Oui, pour cette comédie, merci à toutes les organisations féminines représentées en ces lieux et merci aux étudiantes de l'ISP et d'autres établissements qui sont là pour clôturer ensemble en beauté le mois de la femme.